Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous êtes bien sur la radio Inzamba Agathe Kakawe, c'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. Ce sont des contradictions du chef de l'État Évariste Ndayishimiye dans la définition de la cause de la faillite de l'ONATEL, l'Office national des télécommunications. Soit il jette le tort au personnel, soit il s'en prend aux responsables de l'entreprise. L'État devrait faire un audit sérieux pour déterminer les vrais responsables, nous dira dans ce journal Elali Nibidi, ancienne vice-présidente de la Confédération syndicale du Burundi, COSIB. Le 12 mai, c'est la journée mondiale des infirmiers. Le syndicat national du personnel paramédical, SENAPA, demande que les infirmiers du Burundi soient représentés dans les instances de direction du ministère de la Santé pour défendre leurs intérêts. Enfin, le chef-lieu de la province de Lomongué est plongé dans le noir depuis bientôt une semaine. Les conséquences sont fâcheuses dans les ménages. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Criminalité pour commencer ce journal. Une femme sexagénaire est connue sous le nom de Marie-Rose Niranyibagira, originaire de la colline Nyanza Tuili en commune Busiga de la province Ngozi, a été tuée à coups de poignard dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Les informations recueillies sur place nous disent que cette femme a été tuée par le frère de son mari. À l'origine, le mari avait en effet abattu un arbre situé dans la propriété de son frère et celui-ci est allé se venger et aurait préféré éliminer la femme de son frère qui est morte sur le champ. L'autorité administrative dans cette commune demande aux habitants de la circonscription à en découdre avec la pratique de la justice populaire. Il leur conseille de saisir toujours les services judiciaires habilités chaque fois que des différends se produisent. Pour le moment, la police est à la recherche du présumé auteur du crime qui a vite pris le large après avoir commis le forfait. Les propos prononcés par le président de la République Évariste Ndayishimiye mardi dernier lors d'une conférence de presse sur la faillite de l'Office national des télécommunications ONATEL semblent contenir des contradictions sur les raisons de cette faillite. D'une part, il accuse le personnel de l'ONATEL et le conseil d'administration d'avoir partagé le capital et l'intérêt réuni à travers les bonifications et autres avantages qu'ils se sont octroyés. D'une part, il s'en prend au responsable de l'entreprise, nommé par décret qu'il accuse d'avoir engagé un personnel pléthorique par favoritisme de toutes sortes. Plus de détails avec Beni Aksarakana.
Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a indiqué dans la conférence de presse de mardi de cette semaine qu'il est au courant des problèmes qui font que l'Office national de télécommunication, ONATEL, soit au bord du gouffre. Il a fait savoir que les bonifications du personnel, en accord avec le conseil d'administration, ont fait que ces derniers s'accaparent du capital et intérêts réunis dans l'entreprise.
Je leur ai dit que je ne veux plus leur donner aucun sou. Parce qu'ils ont bouffé le capital à l'intérieur réuni. Moi, je suis de près des situations pour voir où se trouve le nœud du problème. Parce qu'avant, il n'y avait pas de suivi des sociétés paritatiques pour voir s'il y a eu bénéfice ou perte. Vous verrez des sociétés qui accordent des avantages au personnel chaque année, des bonifications équivalentes au salaire. Ils se partageaient le bénéfice 13e mois, 14e mois, etc. Le conseil d'administration se donnait 6 mois de bonus, le personnel 2 à 3 mois, jusqu'à bouffer le capital et les intérêts réunis.
Le président de la République a en outre indiqué que l'octroi de l'emploi au personnel par les différents responsables de l'entreprise par clientélisme basé sur des appartenances politiques et les proches de leurs familles respectives ont aussi affecté le trésor de l'entreprise.
Il y a ce qu'on appelle l'octroi de l'emploi. Ces derniers jours, ce n'était pas chose facile. Est-ce que je peux être directeur général d'une telle entreprise et quitter sans avoir au moins donné l'emploi à mes amis ou à une dizaine de mes proches? Sans pour autant faire une analyse ou tenir compte d'où proviendra le paiement mensuel de ce personnel, sans passer par des paraboles, moi j'ai vu comment le NATEL est tombé en faillite. Quand le Prodevo est venu au pouvoir, le directeur de l'ONATEL est ici mal à l'aise de diriger seulement les Ipronistes. Ils devraient embaucher des pro-débis. Quand il fait une idée à accéder au pouvoir, le directeur général s'est demandé s'il va diriger seulement les Ipronistes et les pro-débis. Il a fait comme le premier et ainsi de suite. C'est pourquoi il y avait engouement à ces sociétés paritétiques où il y avait à manger sans l'oreille indiscrète.
Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a enfin mis la faute personnelle de l'ONATEL qui n'a pas été efficace. Pour lui, une fois que l'ONATEL aura le personnel compétent, il pourra se relever et dépasser toutes les autres entreprises par sa production.
Merci Beni Akselakana. Le président de la République ne devrait pas globaliser et faire chanter les syndicalistes de l'ONATEL, explique Eulalie Nibidzi, ancienne présidente du syndicat Kosibou. Pour ce syndicaliste, l'État devrait commanditer un audit qui déterminera les responsables de la faillite de l'ONATEL. Eulalie Nibidzi déplore que le Parlement n'avait pas assuré correctement son rôle. On l'écoute.
Le commentaire et même le discours du chef de l'État lors de sa dernière conférence de presse en rapport avec la faillite de l'ONATEL ne nous rassure pas et ne garantit pas la protection des entreprises parapubliques telles que l'ONATEL, l'INSS, l'ONPR, la Régie des eaux, la Mutuelle de la fonction publique et j'en passe. Ces entreprises utilisent comme capital les impôts de la population. Les contribuables, ils payent aveuglément, sans demander des comptes. Et actuellement, quand la faillite est déclarée, cette faillite n'est pas encore déclarée, et ça se fait d'une manière globalisante, d'une manière, je dirais même, légère, au lieu que le constat d'une mauvaise gestion, le constat d'une faillite probable d'une entreprise devrait se faire par le biais de l'audit de l'entreprise, sur tous les niveaux, l'audit administratif, l'audit financier, et qu'il devrait démontrer la part de responsabilité de tous les organes chargés de la gestion de l'entreprise, à commencer par la direction de l'entreprise, une direction qui est nommée par décret par son Excellence le Président de la République, le conseil d'administration, lequel est nommé par le ministre qui est nommé par son Excellence le Président de la République, mais aussi les travailleurs, les employés de cette entreprise. S'il n'y a pas de qui met en évidence la responsabilité et le niveau de responsabilité de chacun, de toutes ces personnes, de tous ces organes qui interviennent dans la gestion de ces entreprises, on ne pourra pas vraiment avoir confiance à ce genre de discours. Nous, de notre côté, nous pouvons voir que c'est plutôt un discours de harcèlement des syndicats et des travailleurs pour qu'ils évitent de réclamer leurs droits, mais aussi pour qu'ils évitent de réclamer, de demander des comptes aux gestionnaires de l'entreprise. Ces gestionnaires, c'est le conseil d'entreprise, le conseil d'administration, c'est la direction et les hauts organes de gestion des entreprises. Étant l'émanation de la décision des hautes autorités de l'État, ce n'est pas le moment de donner des discours qui disent à la population « il y a faillite, taisez-vous ». Parce que la vente d'une entreprise qui observe la faillite, ce n'est pas la solution.
Dans la même conférence de presse, Evariste Ndayishimiye a dit que les travailleurs de la société sucrière du Mosso Sosumo ne savent pas qu'ils sont des employés de l'État. Selon lui, la Sosumo ne devrait pas porter plainte comme elle a fait contre une institution du gouvernement comme l'OBR. Il a expliqué que tous les bénéfices que la Sosumo encaisse appartiennent à l'État. Écoutez Evariste Ndayishimiye.
Un jour, j'ai vu la Sosumo faire comparaître l'OBR en justice. La Sosumo a accusé l'OBR de lui demander des taxes illégalement. Cela traduit que les travailleurs de la Sosumo ne savent pas qu'ils sont des employés de l'État. Ils se considèrent comme des privés. Cela m'a donné à réfléchir parce que je prends tout mon temps. On peut même m'enfermer jusque pendant la nuit. Parce que je ne comprends pas pourquoi le Burundi est pauvre. Est-ce que la Sosumo est au courant que le bénéfice qu'elle réalise appartient à l'État?
C'est normal qu'une société para-étatique ou privée porte plainte contre une autre société parce que chacune a sa propre personnalité morale. C'est la précision de Maître Yves Lunyagu, expert en droit des affaires. Il réagit ainsi aux propos du président Evariste Ndayishimiye, selon lesquels une entreprise de l'État ne peut pas porter plainte contre une autre entreprise. Cet expert ajoute que cette conception des choses du chef de l'État peut dérouter les magistrats dans l'exercice de leur métier. Maître Yves Lunyagu.
Une mauvaise compréhension de la notion même de personnalité morale. La personnalité morale, c'est en réalité l'aptitude qui est donnée par la loi à certains groupements pour que justement ces groupements puissent avoir des droits et des obligations à l'instar des êtres humains. Avec Une fois doté de la personnalité morale, le groupement va pouvoir avoir un nom, comme nous tous nous en avons. Il va avoir un domicile, c'est-à-dire le siège social. Le groupement va avoir une nationalité, comme nous tous nous en avons. Le groupement a un patrimoine qui lui est propre, mais au-delà de ça, le groupement va avoir le droit d'ester en justice, comme on le dit techniquement. C'est-à-dire que le groupement pourra porter plainte contre une autre institution ou une personne physique, de même que même d'autres pourront porter plainte contre cette personne morale, donc cette société. Donc pour moi, il n'y a aucun problème, il n'y a rien d'alarmant que l'Assosumo, comme personne morale, puisse porter plainte contre l'OBR, qui est lui-même une autre personne morale. Et si vous parcourez les textes qui ayant mis en place ces deux structures, donc l'OBR et l'Assosumo, vous allez trouver que dans les premières dispositions de ces lois, il est clairement mentionné qu'il est créé telle institution qui est dotée de la personnalité morale.
Inzamba.
Dans la suite de ce journal, le monde entier célèbre ce 12 mai la Journée internationale de l'infirmier. À cette occasion, le Syndicat national du personnel paramédical, SINAPA, a salué le travail des infirmiers, mais reconnaît que ce métier ne progresse pas au Burundi. Mélansa Kizimana, président du SINAPA, a exhorté le gouvernement à mettre sur pied une loi régissant l'ordre des infirmiers, de créer une direction générale chargée des infirmiers au sein du ministère de la Santé. Suivez-le.
Le personnel infirmier travaille avec beaucoup de difficultés. Ce sont des difficultés qui sont liées à la profession. Travaille dans des endroits avec des maladies infectieuses, contagieuses, un manque de reconnaissance. Quand même l'infirmier a bien traité, on n'est pas reconnaissant de ses actes. Je vous fais un exemple, par exemple, au bloc opératoire. L'acte d'infirmier n'est pas reconnu. On a toujours tendance à apprécier l'acte du chirurgien. Alors que, après l'acte chirurgical, le reste des soins est dédié à l'infirmier. L'infirmier travaille avec des moyens insuffisants. L'infirmier n'est pas protégé dans sa profession. L'infirmier n'est pas respecté. C'est pourquoi vous allez entendre que l'infirmier, quand il administre les soins, et que le médicament est incompatible avec le patient, on va dire que c'est l'infirmier qui a mal soigné. Le patient est allergique à un tel produit pharmaceutique. Autre défi, dans notre pays, sur le plan organisationnel, la profession infirmière ne progresse pas. La profession infirmière, telle qu'elle était vers les années de l'indépendance, elle est restée comme ça sur le plan organisationnel. Alors que sur le plan de la formation, l'infirmier a progressé. Nous avons des infirmiers à 3, nous avons des infirmiers à 2, nous avons des infirmiers licenciés, nous avons des infirmiers qui ont des niveaux master, nous avons des infirmiers qui ont des niveaux doctorat. Mais ils ne sont pas valorisés. Le poste le plus important pour l'infirmier, c'est au niveau de l'hôpital. Là aussi, il est chef de médecine. Vous n'allez pas trouver d'organe de gestion des infirmiers au niveau du district, au niveau provincial ou même au niveau national. Il n'y a pas d'organe, il n'y a pas de direction de ces infirmiers au niveau du ministère. Pas de poste ou même pas de direction ou même pas de service de gestion des infirmiers au niveau provincial. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'on investisse dans cette profession et surtout protéger l'infirmier, le respecter dans ses actes de prestation infirmiers. Au Burundi, on n'a pas d'ordre des infirmiers. Alors que partout dans les autres pays, sauf au Burundi, la profession est gérée par l'ordre. Parce que l'ordre est un organe très important pour l'avenir d'une profession. Sur le plan éthique, sur le plan déontologique, même sur le plan de l'évolution, sur le plan de la carrière aussi.
Et puis la campagne de recensement des motos, vélos et tuk-tuk qui ne sont pas utilisés à titre commercial a été caractérisée par plusieurs irrégularités. Le constat a été fait ce jeudi par Gervain de la Kobucha, ministre ayant en charge la sécurité publique. C'était lors d'une réunion d'évaluation de cette activité, une réunion qui a vu la participation des administratifs au mairie de Bujumbura. Le ministre de la Kobucha a ensuite pris la décision de suspendre ce travail d'enregistrement. Écoutez-le.
Hari abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde.
Il y a des gens qui ne veulent pas que cette ville soit en ordre dans le domaine de transport. La raison est celle-ci. Sur base des statistiques de recensement, on a constaté que les chiffres des outils de transport qui demandent l'autorisation privée sont 1813 motos. On a aussi recensé 13711 vélos de sport et 5874 petites
motos.
Nous habitons tous dans cette ville. Les administrateurs sont ici et les chefs de zone. Est-ce que réellement ces outils existent dans cette ville? Ou bien ce sont les outils auxquels nous avons fixé leur délimitation dans la ville qui sont venus de nouveau pour se faire réinscrire? Et réfléchissons ensemble ce qui est caché derrière ces chiffres afin de trouver une solution.
Et pour boucler ce journal, c'est la grogne chez les habitants de la province de Mongé. Le courant électrique de la régie des eaux manque depuis 5 jours. Ces habitants disent qu'ils enregistrent des pertes énormes dans les ménages. Ils demandent à la régie des eaux de trouver des solutions à cette question. Les détails avec Vanessa Mouiteka.
Les informations recueillies par la radio Nzamba au sein de certains habitants du chef-lieu de la province de Mongé nous disent qu'il y a des coupures répétitives du courant électrique de la régie des eaux depuis ce lundi dans cette province du Sud, ce qui a entraîné la paralysie des activités, tant publiques que privées. Les habitants de cette localité se lamentent. Les objets conservés dans les frigos comme la viande, le lait, les fruits et les légumes périssent. Ils disent qu'ils enregistrent des pertes énormes. Il en est de même pour ceux qui exercent les activités de soudure et celui du secrétariat public. Leurs clients passent des journées à attendre, mais rentrent sans être servis, comme un des habitants le témoigne.
Nous n'avons pas du courant. C'est depuis ce lundi. Une fois le courant disponible, il ne dure que le temps de la rosée. 2 à 3 minutes seulement. Depuis ce lundi, il y a paralysie totale des activités. C'est vrai, les gens vaquent à leurs activités habituelles. Les activités qui nécessitent du courant ont été paralysées. Les habitants qui cherchent des services peuvent passer toute une journée à attendre, mais rentrent sans être servis. Ce n'est pas du tout facile. C'est vraiment malheureux. Certains produits comme la viande, les légumes et les poissons qui devraient être dans les frigos deviennent périmés. Nous demandons à la régie des eaux de trouver une solution à ce problème si épineux qui hante la population.
Cette coupure répétitive du courant de la régie des eaux s'ajoute à la pénurie du carburant qui ne permet pas à ceux qui ont des machines de les utiliser. Ils demandent à la régie des eaux de prendre cette question en main. La rédaction de la radio Nzamba a appelé par téléphone le responsable de la régie des eaux à Lumongi pour apporter des précisions sur cette affaire, mais sans succès.
Merci Vanessa Mouiteka et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.